Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, jeune ou plus âgé, votre dos est souvent l'objet de vos soucis. Scoliose, lombalgie, connue aussi sous le nom de limbago, hernie discale, sciatique et encore bien d'autres pathologies. Nos deux invités dans cette émission vous expliqueront les raisons de votre mal, les traitements pour endiguer autant que possible la douleur et parfois la limite de ces mêmes traitements. Jean Dubousset, Charles Menkès, bonjour.
Bonjour, merci de nous avoir invités.
Pour vous présenter, professeur Dubousset, vous êtes chirurgien orthopédiste d'enfants, chirurgien retraité à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Professeur Menkès, vous êtes ancien chef de service en rhumatologie à l'hôpital Cochin, professeur émérite à l'université Paris 5, fondateur de OARCI, Association internationale pour l'étude de l'arthrose, et également membre de l'Académie nationale de médecine. Nos auditeurs vous retrouveront sur le site de Canal Académie à travers deux émissions, la première sur l'ostéopathie et la seconde sur la fibromyalgie. Alors si l'on jette un œil sur les expressions françaises qui font référence au dos, on se rend compte qu'il est à la base de toutes nos souffrances, tant physiques que morales. On vous assène un coup de poignard dans le dos, on agit derrière votre dos ou encore on vous casse du sucre sur le dos. Je ne vais pas citer toutes les expressions où l'on se réfère au dos, mais elles sont nombreuses. Alors j'imagine qu'elles sont le reflet d'un mal initial bien réel, porté ensuite dans ces expressions. Est-ce que l'on arrive aujourd'hui à comptabiliser le nombre de Français qui ont mal au dos? Monsieur Menkès, pour commencer.
Oui, ce mal de dos s'intègre dans une maladie générale qui est l'arthrose et on considère qu'il y a de 9 à 10 millions de personnes en France qui souffrent d'arthrose, touchant la colonne vertébrale en priorité, mais aussi d'autres articulations. Et cette arthrose est responsable d'un coût important au plan social, car en 2002, elle a coûté 1,6 milliard d'euros et elle s'explique très bien par l'augmentation de la durée de vie et on estime qu'en 2010, la durée de vie ira jusqu'à 85 ans en moyenne. Et alors qu'il y a quelques années, les centenaires étaient exceptionnels, aujourd'hui il y a près de 20 000 centenaires. Alors arthrose et vieillissement ne sont pas synonymes, mais plus on vieillit, plus on a de chances de développer des atteintes arthrosiques.
Et nous allons en reparler au cours de cette émission. Au cours de cette émission, nous avons un programme bien chargé. Nous allons parler d'arthrose vertébrale, vous en parliez à l'instant, de dyscarthose et d'ostéophytose, également du canal lombaire étroit. Vous nous en direz plus tous les deux dans quelques instants. Nous parlerons de sciatique, de lombalgie, d'hernie discale, de scoliose, bien sûr, et aussi de maladies à microcristaux, autrement dit la goutte. Commençons par l'arthrose vertébrale. Est-ce qu'elle est un passage obligé pour chacun d'entre nous? Peut-être professeur Dubousset, pour commencer.
Elle n'est pas un passage obligé pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui terminent leur vie avec quasiment pas beaucoup d'arthrose vertébrale. Il y a des facteurs favorisants.
Quels sont justement ces facteurs?
Et d'abord, la génétique. Comment vous êtes construit? Parce que vous avez des situations de vos vertèbres dans l'espace qui sont différentes d'un individu à l'autre. Hein. Et en particulier... La situation dans le plan sagittal, c'est-à-dire de profil, est tout à fait génératrice dans un certain nombre de cas, de morphotypes, on appelle ça les morphotypes, nous, les médecins, qui sont assez générateurs d'arthrose dans certaines conditions. Par exemple, lorsque vous avez une hyperlordose lombaire, vous avez le dos très creux, eh bien vous avez des pressions qui sont trop importantes dans la partie postérieure, c'est-à-dire en arrière, de votre dos, c'est-à-dire là où sont ce qu'on appelle les apophyses articulaires, car vous savez que les vertèbres sont un empilement de petits objets osseux qui sont réunis les uns avec les autres par des articulations. En avant, ce sont les disques, et en arrière, ce sont les apophyses articulaires. Alors, imaginez de profil comment vous êtes. Si vous avez le dos très creux, ben vous voyez bien qu'à ce moment-là, les disques ont plutôt tendance à bailler en avant, alors qu'en arrière, tout se concentre sur les apophyses articulaires. Et là, ça vous donne des lésions qui, avec l'âge, deviennent de l'arthrose.
Les scolioses également sont générateurs d'arthrose vertébrale.
Les scolioses, il y a deux grandes catégories de scolioses. Il y a les scolioses qui viennent de l'enfance, que vous avez acquis pendant votre enfance, et qui vont se développer plus ou moins, de manière plus ou moins importante. et qui vont, là encore, vous donner une espèce de déséquilibre dans l'espace, en plus des déformations, ou plutôt inesthétiques, qu'elles entraînent. Et le point important, c'est lorsque ces scolioses s'étendent dans la région lombaire, parce que c'est la région lombaire qui est la plus génératrice de désordres douloureux à l'âge adulte. Donc ces scolioses qui sont apparues dans l'enfance, elles vont pouvoir, du fait du déséquilibre qu'elles vont entraîner, mettre ce petit empilage vertébral dans des situations mécaniques qui ne vont pas être bonnes. Et donc ça va entraîner des efforts plus importants d'un côté que de l'autre, qui de temps en temps vont même amener à certaines dislocations, c'est-à-dire les deux vertèbres hein, toujours à des niveaux qui sont très fréquents dans la région lombaire, vers L4, L5, L3, L4, vont entraîner des espèces de désalignements des vertèbres d'une par rapport aux autres, de sorte qu'il y aura des pressions plus importantes d'un côté que de l'autre qui vont entraîner ces phénomènes arthrosiques qui vont pouvoir retentir sur les nerfs, car vous savez que les nerfs sortent par des petits trous qu'on appelle les foramen, et que ces foramen vont pouvoir plus ou moins être coincés. Le nerf qui passe au travers va peut-être plus ou moins coincé là-dedans.
Et provoquer une hernie, par exemple
Et provoquer une compression du nerf qui va entraîner un phénomène douloureux qui va descendre plus ou moins bas et qu'on appelle la radiculalgie, c'est-à-dire la racine nerveuse qui est douloureuse.
Ouais. La sciatique aussi, par exemple.
La sciatique est une radiculalgie, bien entendu, qui est créée le plus souvent, non pas par la compression du nerf par la surface articulaire ou par l'arthrose à ce niveau-là, mais qui est créée par la dégénérescence de la partie antérieure de la colonne vertébrale, c'est-à-dire ces espèces de coussinets qui sont entre les corps vertébraux et qui s'appellent les disques intervertébraux et qui ont une fonction extrêmement importante d'amortisseur et de transfert des mouvements. De sorte que quand ils dégénèrent, eh bien, il y a une partie du disque qui va plus ou moins bâiller, s'expulser vers l'arrière, va coincer votre nerf, en particulier sciatique, la racine, parce que les nerfs sont constitués par des racines qui se réunissent et qui vont donner le nerf lui-même. Et lorsque vous avez cette hernie du disque qui vient coincer votre nerf, eh bien, vous avez une sciatique.
Donc on a bien compris, hein, à partir d'une scoliose, comment, par effet domino, on obtient toutes ces douleurs, malheureusement.
Voilà. Ce que je dois dire à propos des scolioses, une chose très importante, hein, c'est que les scolioses qui apparaissent dans l'enfance vont pouvoir, à l'âge adulte, se décompenser et donner ce phénomène arthrosique. Mais il y a une catégorie de scolioses tout à fait particulières qui sont des scolioses qui n'apparaissent qu'à l'âge adulte et qui viennent de la succession d'altérations des disques qui vont entraîner ces petits désordres dont je vous ai parlé et qui vont faire que l'empilement va devenir de plus en plus instable et va entraîner une scoliose, mais qui n'a rien à voir avec celle de l'enfance. Bien que, du fait des phénomènes arthrosiques et autres, elle va pouvoir vous donner les mêmes compressions nerveuses, etc. De sorte que l'organe rachidien, car c'est un organe, il faut le considérer comme un organe, il va pouvoir être altéré de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et à la vieillesse.
La transition est toute trouvée, c'est justement sur ce terrain que je voulais vous amener, donc la scoliose dégénérative, hein, pour l'arthrose qui touche les personnes adultes directement. Je me tourne vers vous, Joël Menkès, puisque au début de cette émission, vous nous avez donné quelques chiffres pour parler de l'arthrose, et notamment, du coup, aussi de la scoliose dégénérative. Est-ce qu'on va vers un problème de santé publique avec le vieillissement de la population et ces scolioses dégénératives que vous nous avez à l'instant expliquées, professeur Dubousset?
Oui, dans l'ensemble, l'arthrose pose un problème de santé publique par son coût très élevé. Et c'est pourquoi on travaille beaucoup pour essayer de trouver une prévention efficace. En ce qui concerne l'arthrose touchant la colonne vertébrale, le rachis, il est important de noter que l'arthrose, elle se voit sur les radiographies, le diagnostic est radiologique. Mais il n'y a pas de parallélisme entre les lésions anatomiques que l'on voit sur les radiographies et la souffrance du malade. D'autant plus que, comme vous le disiez initialement, il y a un facteur psychologique qui est très important quand on s'adresse à la colonne vertébrale. Et dans beaucoup de cas, la persistance des phénomènes douloureux est moins liée à un désordre anatomique qu'à un problème de conflit personnel, sociale, professionnelle en particulier. Donc c'est un sujet assez complexe et la prise en charge des personnes qui souffrent du dos de façon chronique est difficile. D'un autre côté, on sait que les lésions que vient de décrire Jean Dubousset sont liées au départ, notamment au niveau du disque, à des phénomènes inflammatoires. On dit dégénératif, mais en fait c'est dégénératif et inflammatoire. Il y a une inflammation qui se fait au niveau du disque intervertébral, avec libération de certaines substances qui entraînent une dégradation enzymatique du cartilage du disque intervertébral. Et le fait assez curieux, c'est qu'on a pu essayer de traiter ces compressions discales facteurs de sciatique en injectant la même substance que l'on utilise pour traiter la polyarthrite rhumatoïde dans le canal rachidien. Alors, ce sont des études encore expérimentales, mais qui amène à penser qu'au départ, il y a un phénomène inflammatoire qu'il faudrait pouvoir contrôler.
Vous allez très vite, vous parlez déjà de traitement. On va y revenir sur tous les traitements. Je voulais revenir, si vous me permettez, avant, sur les facteurs susceptibles de favoriser le développement de l'arthrose vertébrale. Donc, vous me l'aviez expliqué, Jean Dubousset, c'est initialement essentiellement génétique, mais il y a également d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, alors de l'ordre de 10%, 90% génétique, 10% facteurs autres, notamment les accidents violents, mais également le sport. Alors, il faudrait que vous nous en parliez. Le sport, peut-être à outrance, j'imagine.
Voilà, le sport à outrance peut être facteur de micro-lésions.
Quand on parle de sport à outrance, ce sont les sportifs de haut niveau, les joueurs de football, par exemple ?
Par exemple, ce n'est pas uniquement les sports de haut niveau, mais c'est lorsque le sport est utilisé de manière excessive, en particulier chez les enfants. Il faut quand même se méfier des micro-traumatismes qu'entraîne un sport trop répétitif, entraînant des chocs. Ça a été prouvé de manière parfaitement exacte, par exemple sur les gymnastes, les petits-enfants gymnastes, à outrance, souvent poussés par des familles qui veulent avoir le champion du monde et qui vont pousser leur enfant au maximum, et bien de temps en temps, on voit apparaître des fractures. On ne peut pas dire le mot autrement. C'est une fracture de l'isthme vertébral, c'est-à-dire de ce qui rejoint la partie antérieure, la partie postérieure de la vertèbre, et qui, si on en fait le diagnostic tout de suite, il suffit de plâtrer l'enfant et le lisme va se consolider dans 80% des cas. Mais si on le laisse passer, eh bien, il va se créer une espèce de zone de non-soudure entre les deux fragments de la vertèbre cassée, si on peut dire. Et ça va être facteur d'instabilité. Et de temps en temps, c'est tout ce qui va amener au spondylolisthésis, le fameux spondylolisthésis qu'on retrouve à l'âge adulte, en sachant très bien que dans le spondylolisthésis, vous avez 5, 6%, 7% de la population qui peuvent avoir un spondylolisthésis. Mais que ceux qui finiront sur la table d'opération, ce sera peut-être 0,01%. Donc il ne faut pas penser que parce que vous avez un spondylolisthésis, il va falloir vous ruer sur la salle d'opération. Pas du tout. Vous pouvez vivre très bien avec un spondylolisthésis.
Je vous propose de remarquer une courte pause musicale pour commencer avec la musique de Vincent Scotto, les paroles de Géo Cogé, « Je ne suis pas bien portant », interprété par Gaston Ouvrard en 1932.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. J'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent. Les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils.
orteils, pas pareil. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous ? Moi j'y répondis, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain, en plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quelle souci, la luvette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie du professeur Menkès et du professeur Dubousset, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de termes un peu barbares. Nous allons parler de dyscartose, d'ostéophytose et de sténose du canal rachidien. Des termes un peu barbares, mais qui concernent certainement pas mal de personnes. Commençons par la dyscartose, inflammation des disques intervertébraux, si je ne m'abuse. Je me tourne vers vous, professeur Menkès. En quoi consiste la dyscartose, si je peux parler ainsi?
Alors, il y a une unité fonctionnelle qui est le disque intervertébral, l'amortisseur entre les vertèbres, les plateaux vertébraux supérieurs, inférieurs. Dans certaines circonstances, il se produit des fissurations à la périphérie du disque intervertébral. Et de ces fissurations naissent les saillies discales, les hernies discales qui peuvent être compressives, comme vient de le dire M. Dubousset. À partir de ces phénomènes de rupture discale, il y a une mise en contact de la partie centrale de l'amortisseur qu'on appelle le nucléus, qui est une partie assez molle, élastique, capable de résister aux efforts de compression, avec le sang périphérique, car le disque lui-même n'est pas au contact avec le sang périphérique. Et cette substance mise au contact du sang périphérique et des éléments cellulaires que contient le sang déclenche une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire va libérer des substances qui vont entraîner et aggraver la dégradation du disque. Donc c'est peut-être un peu mécanique au départ, mais à un moment donné, il y a un rôle inflammatoire. Il se crée à ce moment-là un affaissement discal qui peut être homogène ou prédominer d'un côté. Et à ce moment-là, il y aura affaissement d'un côté et une conservation de l'interligne de l'autre. Et ça va créer une scoliose qui est souvent douloureuse. Alors, elle est douloureuse et on a pu montrer que lorsque l'on fait un examen en résonance magnétique de l'espace discal, il existe une corrélation entre l'inflammation qui apparaît sur l'os, c'est-à-dire un hypersignal, c'est-à-dire un signal de présence de liquide, d'édème, et la douleur. C'est la seule corrélation que l'on peut faire au plan radiologique entre douleur et anomalie radiologique. Après ce phénomène inflammatoire et la destruction discale, apparaissent des phénomènes de reconstruction. Il y a en même temps destruction et reconstruction. Et cette reconstruction aboutit à des productions osseuses, ce que l'on appelle les ostéophytes ou les fameux becs de perroquet que l'on a dans la colonne vertébrale. En eux-mêmes, ils sont rarement gênants, sauf à l'étage cervical, où parfois on a pu incriminer, lorsqu'il y avait des ostéophytes très volumineux, des troubles de la déglutition, parce qu'ils venaient au contact de l'œsophage. Mais pour le reste, c'est plus un marqueur de l'anomalie osseuse qu'une gêne fonctionnelle.
Est-ce que la dyscartose et par conséquent l'ostéophytose qui en émane sont aussi la conséquence du vieillissement ou est-ce que on peut être touché par la dyscartose très jeune ?
On peut être touché par une dyscartose très jeune, l'arthrose cervicale, les premiers signes apparaissent souvent à partir de 27 ans. Et dans les familles où il y a des phénomènes de ce type, des dyscartroses héréditaires, on voit apparaître ces phénomènes de dégénérescence discale, de pincement, d'inflammation locale, dès l'âge de 30-35 ans. Et c'est très curieux de voir, quand on suit les familles régulièrement, de voir que on a les parents qui viennent consulter à un moment donné pour un tableau de hernie discale et quelques années plus tard, l'enfant, garçon ou fille, vient consulter avec une lésion qui est à peu près la même. Donc c'est tout à fait particulier.
Donc il y a aussi l'aspect génétique dont vous parliez également, Jean Dubousset, au cours du début de cette émission. Venons-en à la sténose du canal rachidien, également appelée canal lombaire étroit. Je me tourne vers vous, cette fois-ci, professeur Dubousset, pour nous faire une définition de ce canal lombaire étroit. Qu'est-ce qui va comprimer ce canal ?
C'est assez facile à comprendre. Il faut savoir, c'est de l'anatomie de base, que une vertèbre est constituée par le corps vertébral en avant, par l'arc postérieur en arrière, et donc s'empile avec les apophyses articulaires, comme je vous l'ai dit. Mais il laisse en haut milieu, et c'est la raison d'être de l'organe rachidien, il laisse un canal dans lequel vont passer, d'une part, la dure mère, qui entoure la moelle épinière, bien entendu, avec son liquide à l'intérieur, les méninges, et les racines vont sortir du haut en bas et passer dans ces trous, de sorte que, à l'intérieur de ce canal, vous avez cette fonction fondamentale de protection de la moelle épinière, du système nerveux, si vous voulez. Et tout autour de ça, vous avez des vaisseaux qui partent. Et c'est pour ça que les phénomènes inflammatoires vont être assez importants et pouvoir générer des compressions par eux-mêmes. Et donc, il a une certaine taille qui est un peu adapté à la taille de la moelle épinière. Et il a une certaine forme qui est différente dans la région cervicale, qui est différente dans la région thoracique, qui est différente dans la région lombaire. Et cette taille, elle est aussi déterminée génétiquement. Parce que vous allez avoir des races qui ont un canal qui est plus petit que la normale. Donc il n'y aura pas beaucoup de place. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la moelle épinière, quand vous vous penchez en avant, comme ça, et que vous vous redressez, elle bouge à l'intérieur de ce canal de presque 2 cm, entre le maximum de flexion et le maximum d'extension. Donc, la nature a donc prévu tout un système d'amortisseurs, de parties molles, de liquides, puisque la moelle et les racines sont entourées de liquides, de sphalorachidien, qui est un rôle protecteur. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez un canal qui, déjà, génétiquement, n'est pas très grand, et que par-dessus le cou, vous avez cette formation arthrosique de dyscarthrose qu'a décrit Joël, eh bien, plus ça va s'agrandir, l'arthrose, moins il y aura de place à l'intérieur pour le système nerveux. Et c'est ça qui fait la définition du canal étroit. Mais il faut quand même savoir que le système nerveux a des capacités de résistance à cette compression qui se produit tout doucement, beaucoup plus grande que si vous avez un choc brusque. Vous comprenez là-dessus ? Et j'ai vu un malade arriver à la consultation à Cochin, qui au niveau avait une malformation congénitale, mais qui marchait, qui était debout, et sa moelle à la région cervicale était diminuée par rapport à la normale de peut-être 10 fois. Il était toujours debout, parce que la compression s'était produite très, 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 très doucement. Il ne faut pas en arriver là, bien entendu. Et donc, quand on fait un diagnostic de canal étroit, essentiellement sur des données tomographiques, le scanner, si vous voulez, le scanner transversal, va vous permettre d'avoir la taille exacte de votre canal. Et donc, vous allez pouvoir voir quelle est la quantité de jeu que vous avez ou pas. C'est un point tout à fait essentiel, ça.
Le canal lombaire étroit, les conséquences, j'imagine que ce sont des douleurs, notamment douleurs à la cuisse. Voilà. Également, il me semble, vous me contredirez peut-être...
Il y a un signe très, très particulier pour ça. Le canal lombaire étroit, c'est quelque chose qui va vous donner ce qu'on a appelé la claudication intermittente. C'est-à-dire que le malade marche 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 1 km, ça dépend, et il est obligé de s'arrêter. Parce qu'il se produit justement une espèce d'édème à l'intérieur, vasculaire vraisemblablement, et qui aboutit au fait qu'il ne peut plus marcher. Il s'assied, au bout d'un certain temps, un quart d'heure, 5 minutes, et il repart. Ça, c'est caractéristique, un signe clinique caractéristique du canal lombaire étroit.
Alors, j'allais vous dire peut-être, et là vous allez peut-être me contredire, qu'une des conséquences de cette compression du canal lombaire étroit, c'était aussi une perte de contrôle de la vessie.
Alors, quand on en arrive là, c'est qu'on a laissé passer beaucoup de temps, voyez-vous, hein, parce qu'il ne faut pas arriver à ce stade-là qui entraîne des troubles sphinctériens. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce que la queue de cheval, vous savez, la moelle se termine à la partie haute du rachis lombaire, mais il y a toute la queue de cheval qui descend en dessous. Et donc, lorsque ce canal étroit entraîne une compression trop importante, ça retentit, bien entendu, sur les troubles sphinctériens. Mais alors là, il ne faut pas en arriver là. Il y a eu des tas de signes avant qui nous auront fait prendre une décision thérapeutique, soit médicale, qu'il faut toujours commencer par le traitement médical avant d'en arriver à la chirurgie.
Juste avant de venir au traitement, est-ce que le canal lombaire étroit ressemble étrangement à une sciatique ? Est-ce qu'on peut faire la confusion avec la sciatique ?
Non, c'est
professeur
Menkès. C'est
différent.
D'abord, c'est une atteinte qui touche plusieurs racines, donc des douleurs plus diffuses dans les membres inférieurs. Et effectivement, avec cette notion de claudication intermittente, qui est à distinguer des gènes à la marche des personnes qui ont une artérite. Distinguer, mais qui peut être parfois confondu quand on ne fait pas très attention, d'où la règle de palper systématiquement les artères périphériques chez les gens qui ont ce type de symptômes. Donc les douleurs sont plus diffuses. Sur une jambe, c'est en avant, sur l'autre jambe, c'est en arrière, avec toujours cette nécessité de s'arrêter et puis de reprendre plus ou moins facilement la marche. Et dans ces cas-là, les gens sont extrêmement inquiets. C'est très angoissant d'être incapable d'avancer à un moment donné, d'être obligé de s'arrêter, puis reprendre sa marche, puis ça recommence au bout de 50 mètres. Donc ils ont l'impression qu'ils vont être paralysés, et ils ont tendance à se précipiter vers la chirurgie. Il ne faut jamais se précipiter avec inquiétude sur un syndrome du canal rachidien étroit, avant d'avoir attendu quelque temps, car plus le temps passe, plus on a des chances de voir s'améliorer ce symptôme. Sauf s'il existe des troubles sphinctériens. Donc, s'il y a des troubles, des difficultés pour uriner, une apparition de troubles, difficultés à retenir les urines, je ne parle pas des selles, mais déjà la simple difficulté à la miction, à ce moment-là, il faut s'orienter vers un traitement radical. Mais sinon, les choses peuvent très bien se stabiliser, sans qu'on fasse quoi que ce soit, naturellement.
Venons-en au traitement. Vous parliez donc à l'instant de la chirurgie vers laquelle il ne fallait pas se précipiter. Alors, quelles sont les alternatives avant d'en arriver à la chirurgie ? Des traitements anti-inflammatoires, j'imagine, mais utilisés dans certains cas. On parle également de corsets. Dans le rapport que vous avez édité, un de vos collègues émet des remarques quant au corset, à ne pas l'utiliser peut-être tout le temps, qu'est-ce qu'il pourrait être un cache-misère. Je vais vous laisser en parler. Alors, quelles sont les alternatives avant la chirurgie ? Je me tourne vers vous, professeur Dubousset, et puis professeur Menkès, vous pourrez ensuite rebondir sur les propos du professeur Dubousset.
Eh bien oui, c'est vrai que le corset, de temps en temps, soulage, parce qu'il met un peu au repos.
Dans quel cas est-il utilisé, ce corset ? Dans les cas de scoliose uniquement ?
Ah non, alors là, il ne faut pas tout mélanger. Là, on parle du rachis vieillissant, ou devenu déjà un peu vieux, et qui entraîne des phénomènes douloureux, voire parétique. Mais quand ça devient parétique, il faut, comme l'a dit Joël, faire très attention, car la chirurgie s'approche, si vous voulez. Mais quand ce sont des phénomènes douloureux, le corset peut arriver à mettre. C'est tout à fait différent de la scoliose de l'enfant que vous allez traiter par le corset, et qu'effectivement, là, vous allez pouvoir empêcher l'évolution pendant la période de croissance. Parce que là, on est chez les personnes âgées, et le corset va pouvoir mettre au repos, parfois rétablir, corriger partiellement un déséquilibre et vous entraîner une amélioration de vos problèmes avec les traitements médicaux. Alors ça, c'est une des choses qu'il faut toujours essayer parce que ça vous évite quand même la salle d'opération et ça vous évite l'anesthésie. Ça sera une anesthésie générale, à plat ventre, Et donc, les résultats, il faut quand même savoir, quand vous avez passé un certain âge, que vous avez des risques de confusion cérébrale après. Donc, il
ne
faut pas se précipiter en disant les prothèses de hanche, regardez, comme ça va très bien, etc. Le rachis, c'est un peu différent.
Et avec, je crois, en tout cas, c'est dans les conclusions de votre rapport, vous allez peut-être pouvoir m'en dire plus, le fait qu'une fois l'opération faite, au bout de quelques années, ce problème peut revenir, est susceptible de revenir, professeur Menkès.
Oui, je crois que la grande difficulté, c'est de savoir jusqu'où il faut libérer. C'est-à-dire que si on fait une libération trop importante, ça déstabilise la colonne lombaire. À ce moment-là, il faut faire des fixations avec le matériel mis au point par Jean Dubousset et Cottrel.
Et bien d'autres.
Et bien d'autres, peut-être.
Bien d'autres.
Mais c'est surtout toi que je retiens. Et quand il y a ces grandes stabilisations, ces opérations relativement importantes, les douleurs résiduelles ne sont pas rares. Et puis d'un autre côté, si la libération n'est pas suffisante, à ce moment-là, la stabilité est assurée en post-opératoire, mais souvent, les gens se retrouvent dans la même situation qu'avant. Il faut au départ bien préciser les limites de l'intervention. C'est l'avantage de la collaboration médico-chirurgicale et radiologique. Donc c'est un travail d'équipe qui permet de faire le diagnostic, de reconnaître le rétrécissement canalaire, d'en fixer les limites et de décider de l'intervention et de son importance. Et ensuite, il faut un chirurgien qui ait l'habitude de la chirurgie du rachis, parce que ce n'est pas très facile techniquement à faire. Car sinon, on se retrouve dans des situations très désagréables de personnes qui, opérées, ont encore plus mal qu'avant. Alors, cela, en dehors même du problème de rechute à long terme, car il est certain que si vous libérez la partie basse de la colonne lombaire, les années suivantes, la partie haute peut également devenir rétrécie et entraîner des phénomènes douloureux.
Mais en vous écoutant, professeur Menkès, du coup, on prend un peu peur vis-à-vis des chirurgiens. J'espère qu'ils n'opèrent pas à tout bout de champ pour des problèmes
non,
de dos.
Non, sûrement pas.
Ce qu'il faut, c'est que, comme l'a dit Joël, il faut que le malade soit opéré par un chirurgien compétent et qu'il prévienne bien le malade que ça ne va pas être...
La solution miracle.
Une solution miracle. Et que, comme l'a dit Joël, il y a le problème des segments adjacents. Parce que quand vous bloquez une zone, eh bien, vous avez un surmenage qui se fait au-dessus de la zone que vous avez bloquée. Donc, il peut apparaître de nouveau des... Alors, il faut éviter, sur ces personnes âgées, de mettre le doigt dans l'engrenage et d'avoir des répétitions de chirurgie. Donc, il faut peser les indications bien, que la technique soit bien, bien au point, avec de temps en temps des opérations, comme l'a dit Joël, très justement de libération, mais pas extensive pour ne pas trop déstabiliser, ou des opérations qui vont vous éviter d'avoir à faire une fusion. Alors il y a des techniques qui se développent, qui sont encore expérimentales et qui ne sont pas encore bien validées complètement, mais qui cherchent justement à faire un acte chirurgical pas trop important. Et tout ça pour aboutir à ce que le malade puisse avoir une vie plus agréable qu'avant. Parce que s'il est obligé de retourner dans la chirurgie, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, c'est le doigt dans l'engrenage. Donc, faire très attention de ne pas arriver à ça.
Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs qui nous écoutent, ont certainement mal au dos en vous écoutant, qui ont peut-être des pathologies assez importantes, on
a
bien compris.
La première chose, c'est le diagnostic. Il faut faire un vrai diagnostic par des personnes compétentes, des rhumatologues comme Joël. Ils vont faire un diagnostic. Et le chirurgien, il a son mot à dire dans la discussion commune.
Parce qu'on vous sent quand même très prudent sur la chirurgie, quand même, professeur Menkès, professeur
Dubousset. Il faut insister aussi sur l'importance de l'état musculaire, car dans cette pathologie, les muscles sont complètement atrophiés, et l'exercice physique est certainement très intéressant pour maintenir une bonne trophicité locale, et même pour lutter contre la douleur. Donc ça, c'est un des éléments importants du traitement.
La prévention. Les personnes âgées doivent s'astreindre à avoir un régime calorique pas trop important, 2200 calories quand on a 80 ans, et ensuite essayer d'avoir une activité physique à leur rythme. Bon, on ne leur demande pas de faire le 100 mètres, à leur rythme, mais essayer de marcher une demi-heure par jour, etc. Vous voyez, quand on a 80
ans. Entretenir son corps.
Voilà.
Il y a 2 choses que nous n'avons pas évoquées. J'aimerais qu'on les évoque rapidement, parce qu'on avait dit qu'on en parlerait au début de cette émission. C'est les maladies à microcristaux, la goutte.
La goutte localisée à la colonne vertébrale, c'est quelque chose d'assez rare. Ça se voit surtout dans certaines gouttes sévères, très diffuse, et c'est marqué par des douleurs aiguës qui cèdent parfaitement sous anti-inflammatoires. Ce qui est plus fréquent, c'est la chondrocalcinose. C'est aussi une maladie à microcristaux, mais ce ne sont pas des microcristaux d'acide urique. Ce sont des microcristaux de calcium sous forme de pyrophosphate de calcium. Alors ça, c'est relativement fréquent. Il y a des incrustations calcaires autour de la vertèbre, à l'intérieur du disque. Ça occasionne des accès douloureux extrêmement aigus, un début brutal d'une violence fantastique, qui ont la particularité de régresser très vite avec un peu de cortisone. C'est une des rares indications d'un traitement général par cortisone dans ce type de pathologie. Et il y a un syndrome qui est encore plus extraordinaire, qui est le syndrome de la dent couronnée. Le syndrome de la dent couronnée, c'est le rachis cervical, la première vertèbre, a une apophyse en forme de dent, qu'on appelle l'apophyse odontoïde, et il se forme des cristaux autour de cette apophyse odontoïde comme une couronne. Et brusquement, l'inflammation aiguë entraîne une immobilisation extrêmement douloureuse de la tête chez quelqu'un qui est relativement âgé, très inquiétante, et qui là aussi va disparaître immédiatement avec quelques milligrammes de cortensil pendant quelques jours. Alors le diagnostic n'est pas facile. Si on sait que la personne a une chondrocalcinose, la radiographie peut montrer cela, mais en général il faut faire des tomographies pour arriver à voir ces microcalcifications. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces calcifications, cristaux de calcium, pyrophosphate, ou des autres types de cristaux de calcium, qui est l'apatite, c'est les calcifications qu'on trouve dans les tendinites, vous savez, les tendinites calcifiantes de l'épaule. Eh bien, ces calcifications peuvent également déclencher un processus inflammatoire au niveau du disque et aboutir à des destructions rapides du disque intervertébral. Si rapide que l'on est inquiet et que l'on pense à une infection locale. Tout ça avec des douleurs assez vives. Et c'est un diagnostic qui n'est pas simple, qui demande une répétition des examens radiologiques, des résonances magnétiques et une prise en charge globale du malade pour noter qu'il a effectivement des cristaux un peu partout. Et après la destruction de l'élément vertébral, il peut se former des blocs, en particulier des blocs cervicaux. Et avec Jean Dubousset, on a vu des malades qui avaient des blocs cervicaux à l'âge adulte, déjà dans la vieillesse, et on se demandait si c'était d'origine constitutionnelle ou acquise. Et c'est là, en recherchant l'existence de cristaux sur d'autres articulations, on peut penser qu'il y a eu une évolution vers un bloc lié à la pathologie locale, dégénérative et inflammatoire microcristalline.
Terminons par l'hernie discale. On en a parlé au cours de cette émission. Simplement préciser que l'hernie discale, elle apparaît vers 30-50 ans. Mais ensuite, avec la vieillesse, chose positive, elle est censée plus ou moins disparaître.
L'hernie discale...
Professeur Menkès.
La plus jeune que j'ai pris en charge avait 11 ans. C'était une famille nombreuse. Elle avait porté je ne sais combien de valises en revenant de vacances. Elle s'est retrouvée avec une sciatique paralysante. Il a fallu l'opérer, ça s'est très bien passé. La plus âgée, c'est une dame qui avait plus de 85 ans et qui avait une colonne vertébrale comme celle d'une jeune fille. Pas la moindre ostéophyte, pas la moindre trace d'arthrose, et elle a fait une sciatique de type juvénile. Le propre de l'hernie discale, c'est de guérir spontanément, en quelques mois, dans 80% des cas. Mais bien sûr, il y a des circonstances où il faut intervenir. Il faut intervenir si les douleurs sont insupportables et qu'elles résistent à des traitements antalgiques majeurs. Je l'ai vu une fois chez un garçon qui revenait d'un voyage de noces avec une nuit de noces particulièrement acrobatique. Et il était arrivé dans un état absolument effroyable, hurlant de douleur. C'est une très grosse hernie discale. Il faut intervenir aussi, toujours, les troubles sphinctériens qu'évoquait Jean tout à l'heure. C'est un matin, en arrivant dans le service, un entrant, comme on dit, dans un lit, qu'est-ce qu'il a? C'est rien du tout, c'est une lombalgie. Mais pourquoi il a l'urinal entre les jambes? Oh ben non, il perd un peu ses urines. En fait, c'était une hernie discale énorme, compressive, médiane, avec ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, qui a d'emblée avec comprimé les racines nerveuses et entraîné des troubles sphinctériens, il ne pouvait plus retenir ses urines. Là aussi, intervention d'urgence. Est-ce qu'il faut opérer systématiquement les sciatiques paralysantes? Lorsque la paralysie n'est pas extensive, lorsque les douleurs ne sont pas insupportables, on pense qu'il vaut mieux les traiter médicalement, les rééduquer, attendre que ça se passe, et en général, ça se passe bien. Alors, on est pris dans un petit dilemme. Soit on attend trop, et à ce moment-là, nos amis chirurgiens nous disent « Qu'est-ce que vous avez fabriqué ? Regardez l'état de la racine nerveuse. Il y a des trous vasculaires, des thromboses vasculaires qui font que la racine n'est pas belle du tout. Et il y a ensuite des tumeurs persistantes. »
Et des paralysies persistantes.
Oui. Il n'y a plus de récupération. Oui. Donc, là encore, collaboration médico-chirurgicale pour décider du bon moment d'intervention. Tout ça n'est pas simple et pas facile. Elle demande tout de même une assez grande expérience pour décider au mieux.
Bon, et bien moi qui voulais terminer avec une note positive, je crois que j'ai raté le coche. Peut-être je vais vous donner le mot de la fin, justement, professeur Dubousset. Donnez-moi l'occasion de terminer sur une note positive. Quels sont les progrès actuellement médicaux qui font qu'on va donner de l'espoir à tous ces gens qui nous écoutent ?
Eh bien, c'est par un meilleur enseignement, d'une part, de nos collègues, et des moyens de prédiction qui sont basés sur des travaux qui sont menés depuis de nombreuses années, sur l'enfance, etc., et les nouvelles technologies. Parce que, par exemple, le système qu'on a mis au point avec Georges Charpak permet de pouvoir analyser l'individu tout entier, de la tête aux pieds, et qui permet donc de pouvoir analyser finement le morphotype de l'individu, non pas seulement avec une radio comme on faisait dans les temps qui était la radio de L5S1, toute petite, mais de pouvoir voir l'ensemble de l'individu et donc de pouvoir prévoir les gens qui sont plus susceptibles de développer telle ou telle arthrose à tel ou tel endroit. De sorte que, manifestement, l'association de l'amélioration de l'enseignement et de la diffusion de l'enseignement et des nouvelles technologies qui font tous les jours des progrès, et je ne parle pas du tout de tous les travaux qui sont faits dans la neurophysiologie et qui permettent de mieux comprendre ce système nerveux dont on commence à peine à comprendre comment ça marche. Donc, à mon avis, le futur est optimiste.
Professeur Menkès, vous souhaitiez donc rajouter quelque chose sur l'arthrose ?
Il y a des progrès qui se font actuellement dans la mesure où on commence à comprendre le rôle de l'os dans l'arthrose, l'os sous-chondral, l'os qui est immédiatement sous le cartilage. Et il semblerait qu'il y ait une intervention de facteurs libérés par les cellules de l'os qui entraînent et qui facilitent la destruction du cartilage. Et là, on aura probablement la possibilité de bloquer cette évolution. Cela est affirmé dans des travaux des Pelletier, professeur et de son épouse Pelletier à Montréal, qui viennent d'avoir un prix Fessal, un prix sur l'arthrose très important. Et donc maintenant, l'arthrose serait une maladie de l'os, en plus que maladie du cartilage, et on pourra agir sur l'évolution.
Merci à tous les deux, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.